In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Entre les pages, votre émission littéraire sur Radio G. Je ne peux pas ne pas commencer ce 145e numéro de l'émission sans vous faire part d'une réflexion que je conduis depuis longtemps. Il est communément admis que nos élus, qu'ils soient locaux, départementaux, régionaux ou nationaux, prennent des décisions souvent trop loin de nos préoccupations et objectivement sans effet véritable. L'actualité récente vient, s'il en était encore besoin, en apporter un violent démenti. Vous vous souvenez qu'au mois de décembre dernier, le Conseil régional, sur proposition de sa présidente, Mme Christelle Morançais, votait un budget qui consacrait la baisse de 73% des crédits alloués à la culture. Moins de 2 mois après, nous apprenons que Mobilis, l'interlocuteur du monde des livres en région, a pris la décision de licencier l'intégralité de son équipe professionnelle, 5 salariés, au début de cet été. Et retour au bénévolat, comme par hasard la forme d'engagement préférée des élus politiques à tendance conservatrice. L'activité de patronage leur convient bien. Ça ne fait pas de bruit, ça ne revendique pas, et cerise sur le gâteau, ça travaille réellement pour zéro coût, ce qui conforte ces élus conservateurs de l'inutilité de cette gabegie insoutenable de subventions. Voilà un avenir bien sombre qui s'annonce. Espérons seulement qu'il ne sera pas aussi noir que le roman de mon invité d'aujourd'hui, Mathilde Bosseau. Elle vient de publier au Seuil « Les Saules », un roman noir, humide, boueux. Le terme « gadouilleux » serait d'ailleurs plus opportun. Et il m'a tellement envoûté ce roman que je ne pouvais pas ne pas inviter son autrice à venir en parler. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Mathilde Bosseau. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Mathilde Bosseau qui vient de voir paraître son premier roman. C'est sorti le 10 janvier. Ça s'appelle « Les Saules » et c'est sorti aux éditions du Seuil. Comment allez-vous ce matin, Mathilde ?
Bah écoutez, je vais très bien. Je vous remercie de votre invitation.
Alors, avant qu'on parle de cet étrange roman, de ce troublant roman, moi, j'aimerais que vous vous présentiez, s'il vous plaît.
Écoutez, je suis une femme qui a passé la quarantaine. Je vis à Angers depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis née en Bretagne, dans les Côtes d'Armor. Voilà ce que je peux vous dire de moi. C'est pas facile de parler de moi.
Vous faites quoi comme métier ?
Je suis professeure de français dans un collège REP, de réseau d'éducation prioritaire. Et avant cela, j'ai enseigné également en Seine-Saint-Denis pendant 6 ans, également dans des collèges prioritaires. C'est là que je me sens utile.
Et on va revenir à ce roman vraiment noir. Je vais tenter d'en donner une idée sans rien dévoiler, bien évidemment. Donc, quelque part, dans une petite bourgade, sans doute dans le centre de la Bretagne, en fait, on ne voit jamais la mer, une jeune fille de 17 ans, Marie, est retrouvée morte dans la coulée, le long d'un chemin au bord d'un cours d'eau. C'est la fille du pharmacien, un peu notable, un peu fortuné par sa femme, beaucoup écolo. Il habite le lieu dit la Haute Motte et est opposé à des agriculteurs qui, eux, vivent à la Basse Motte. On est au milieu des années 80, il y a Madonna qui chante « Like Virgin ». Et pour finir de brosser le tableau, il y a 2 enfants très importants. Marguerite, une petite fille d'environ 10 ans, et son copain Victor, un petit garçon un peu simple d'esprit, candidement amoureux de Marguerite. Ces 2 gamins sont une sorte de lumière dans ce roman noir. Est-ce que j'ai présenté correctement ce roman ?
Oui, je trouve que c'est très bien, parce que vous n'en dites pas trop. J'ai toujours du mal avec les grands résumés parce que je tremble toujours un peu.
Non.
Mais non, je trouve que c'est absolument bien résumé parce que le mot de haute motte et de basse motte, qui sont des lieux totalement fictifs, présentent déjà une dichotomie qu'on va retrouver un petit peu à travers l'ensemble du roman.
Et au travers de cette conversation, alors c'est terrible de parler d'un livre sans dire, mais on ne peut rien dire puisque c'est un roman, que c'est un roman noir, qu'il a une écriture très particulière. Donc on ne va rien dire. Je pense que ce résumé pose le contexte, voilà, et on n'a pas besoin d'en savoir plus. Si on veut en savoir plus, c'est très simple, on va chez son libraire favori, on achète le livre et on le lit. C'est votre premier roman ?
Oui, absolument.
Alors il y avait envie d'écrire un roman noir ou un polar, qui sont des genres très masculins. Vous aviez envie d'écrire ça ?
Non, pas du tout.
Non ?
La vérité, c'est que quand j'ai commencé à taper comme ça cette histoire devant mon ordinateur, j'imaginais pas une seule seconde que les pages allaient s'enchaîner et que j'allais écrire une histoire. C'est la vérité. J'avais honte d'écrire, en fait, je me cachais. Au départ, je trouvais ça totalement présomptueux d'oser écrire. Et j'ai commencé par le personnage de Marguerite et par la tuerie du cochon. Ce sont vraiment les premiers mots que j'ai posés, ce sont les premières pages que j'ai écrites. Et ensuite, j'ai été totalement happée par la fiction, par la résurgence d'images d'enfance qui m'ont traversée et qui m'ont construite. Et c'est devenu un roman policier presque à mes dépens, parce qu'aussi bizarre que ça semble paraître, j'en ai pas lu beaucoup, j'en ai pas lu autant que ça. Et je me suis retrouvée à écrire cette histoire et je me suis dit, bon ben, ça me fait du bien, donc je vais continuer. Mais j'avais jamais imaginé pouvoir terminer quelque chose d'intelligible, de compréhensible. C'est ensuite mes proches, mes premiers lecteurs qui m'ont dit, si, ça ne doit pas rester dans un tiroir, Mathilde.
Alors, vous dites roman policier, moi je ne dis pas roman policier, je dis roman noir.
Oui.
Parce que ce n'est pas un polar.
Non, je suis d'accord.
On va y revenir, mais ce n'est pas un polar. Alors, vous avez dit qu'il ne faut pas trop en dire, n'en dites pas trop s'il vous plaît, c'est très important. Vous n'avez pas installé l'action de ce roman dans un univers urbain. Il se déroule majoritairement dans la ruralité profonde.
Oui.
Et quand je dis profonde, c'est vraiment la ruralité profonde. Les romans noirs, les polars, tout ça, ça se déroule plutôt en milieu urbain. Vous l'avez dit un petit peu, ce sont des réminiscences d'enfance qui ont animé un peu cette écriture.
Oui, au départ, je crois que c'est cette idée de me dire que peut-être je pouvais raconter ce coin d'enfance, cette campagne reculée qui était pour moi d'une grande beauté aux horizons infinis, illimités, puisque j'avais le droit de faire à peu près tout ce que je voulais autour de la ferme de mes parents. Et je me disais que peut-être j'arriverais à mettre quelques mots comme les perles d'un collier qu'on enfile. Et la seule idée qui me guidait, c'était que peut-être ma mère lirait ces pages. Vraiment, c'est le point de départ de mon envie. Et je venais de donner naissance à mon second fils. J'étais très fatiguée. Et en même temps, pendant le silence de ses siestes, en fait, je me suis mise à écrire.
Je suis un peu surpris quand vous dites l'envie que j'avais, c'est que ma mère lise ces pages. Parce que moi, j'ai pensé effectivement très rapidement qu'il y avait plus que l'écriture d'une fiction. Il y avait quelque chose qui vous appartenait dedans. Entre autres, quand vous décrivez l'univers de la ferme, on sent qu'il y a du vécu. D'autant plus que cette fiction, vous l'avez inscrite dans une temporalité particulière, les années 80.
Oui, c'est vrai.
Alors pourquoi ce retour dans le temps qui impose de toute façon un travail documentaire ?
Bah justement, moi, c'était plutôt l'idée inverse. On voit les choses avec les yeux de Marguerite quand même, pratiquement un chapitre sur deux. Et Marguerite a à peu près le même âge que le mien pendant ces années-là. Et je me sentais beaucoup plus légitime de raconter cela parce que c'était ce que j'avais vu. C'est Madonna, comme vous le dites. C'est la cigarette qu'on fume au coin de la voiture. Et donc, je me disais que ça sonnerait plus vrai, en fait, que quelque chose que j'irais chercher ailleurs.
Il y avait une tante Janine chez vous ?
Non, il n'y a pas de tante Janine. Non, il y a beaucoup plus de fiction, peut-être, que ce que les gens pensent.
L'origine du roman, c'est le meurtre ? C'est l'envie de parler d'un territoire ? Ou c'est plus simplement l'envie d'écrire ?
C'est sans doute un peu tout ça mélangé dans mon cerveau, embrumé. À l'origine, c'est l'envie de faire traverser Marguerite. C'est de mettre le focus, en fait, sur elle, sur sa faiblesse.
Fragilité.
Oui, elle est rendue faible par le regard des autres. Mmh. C'est aussi quelque chose que j'ai pu traverser à certains moments de ma vie en étant fille de paysan. Donc, c'est le point vraiment de départ, c'est Marguerite. Et c'est surtout son silence. C'est mon incapacité à la faire parler. J'étais paralysée devant le clavier. Elle ne pouvait pas ouvrir la bouche, en tout cas au début. Et je me retrouvais très embêtée avec ce silence-là. Et donc, j'ai créé dans ma tête d'abord cette Marie qui représentait ou qui pouvait représenter pour la petite fille Marguerite un peu l'Eldorado. Et finalement, je la tue très vite. Et donc, je me retrouve avec ces deux silences intriqués l'un à l'autre. Et c'est comme ça que je vais trouver la voie de mon roman.
Marguerite, c'est une petite fille, elle a environ 10 ans, je pense. Hein.
Oui.
On pourrait parler de... Elle est fragile, plus que faible, à mon avis, fragile. Elle est harcelée à l'école, mais...
Oui.
C'est un harcèlement des années 80, c'est pas le même harcèlement qu'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est beaucoup de moqueries, beaucoup de brutalité, hein, la brutalité qu'on connaît bien dans les cours de récréation. Et tout ça, elle le vit dans un silence terrifiant.
Oui, je crois que c'est quand même le harcèlement qu'on peut vivre aussi aujourd'hui à l'école. Je suis professeure, donc c'est une question qui m'interpelle beaucoup, parce que le harcèlement fait des ravages, il est nommé aujourd'hui. À l'époque, en tout cas, du plus loin que je m'en souvienne, on n'en parlait pas, on ne le nommait pas. Et j'ai pu voir une petite fille qui montait dans le même car que moi, qui était harcelée. Voilà. Un jour, je me souviens, je le raconte dans ma scène, mais je le déguise par l'histoire, par la fiction. Cette petite fille qui sentait mauvais n'a pas eu le droit de s'asseoir, elle n'avait pas le droit de s'asseoir parce qu'elle puait. Et je me suis levée, je me souviens très bien, pour dire, du haut de mes quoi, 9-10 ans, que c'était pas normal. Et en fait, un grand du car m'a asséné une violente claque. Et je me suis rassise et je me suis tue. Et en écrivant, c'était le moyen de reprendre le pouvoir.
Effectivement, vous avez raison. Ce sont des violences qui sont exercées dans une forme de hiérarchisation qu'on connaît bien dans le milieu scolaire, c'est-à-dire les plus grands exercent leur pouvoir, ce pouvoir ridicule qu'ils ont, mais ils l'exercent de manière très violente. Et effectivement, il y a cette forme de ce mutisme, en fait, cette gamine dont on entend, que vous faites parler, mais dans sa tête, qui ne parle pas.
Presque pas.
Presque pas. Et oui, vaut mieux qu'elle parle presque pas, parce que quand elle parle... elle parle, hein. En quelques mots, elle dit, c'est du lourd quoi, ce qu'elle sort.
Oui, oui.
Voilà. Alors, pour revenir un peu à ce territoire, c'est un territoire que vous connaissez, vous l'avez dit. Moi, il ne me fait pas envie. Hein. C'est humide, c'est boueux. J'irais jusqu'à dire que c'est gadouilleux, presque malsain. Enfin, moi, je l'ai vécu comme quelque chose de presque malsain, de sombre. Il y a l'envie de surcharger un peu cet environnement, ou alors c'est les sensations que vous avez eues quand vous étiez enfant dans cette ferme ?
Non, il n'y a pas d'envie de surcharge, c'est sorti comme ça. Voilà, c'est vrai que ça colle aux bottes. Ça colle aux bottes longtemps chez certaines personnes, c'est compliqué.
Oui.
Ça existe, mais mon hameau n'existe que dans ma tête et dans mon histoire. Ça n'est évidemment pas une représentation de toutes les fermes bretonnes, bien entendu. Je ne suis pas ethnologue, voilà, pas plus que... Je ne suis pas agricultrice d'ailleurs, voilà. Donc ça n'est qu'une fiction. Et puis j'avais envie de cette noirceur pour faire sortir la bête qui sommeille en nous.
La campagne que vous décrivez, elle est quasi universelle, en tout cas en France. Cette campagne, on peut la retrouver partout. On échangeait hors micro tout à l'heure, où je disais que moi, les paysages que vous décrivez, moi, je les ai vécus. Alors, pas loin de la Bretagne, c'était en Mayenne. Ça me fait penser un peu à l'univers que décrit Pierre Pelot dans « L'été en pente douce ». Voilà, ces campagnes profondes, voilà, qui sont un peu, qui sont très reculées. Mais là, vous y rajoutez une strate d'humidité qui est vraiment glaçante.
Oui.
Alors moi, j'ai parlé de roman noir parce que dans ce roman, il n'y a pas de policier, pas de flic au sens où on l'entend traditionnellement dans un polar.
Oui.
Y a des gendarmes, mais en fait, ils sont toujours à la périphérie, ces gendarmes.
Oui, alors ça, c'est... Ça, pour le coup, c'est voulu. Hein. Ça naît aussi de la difficulté que j'avais à les faire parler. Je me disais que je ne sonnerais jamais juste. Et donc, il m'a été prodigieusement incapable de leur donner beaucoup la parole. Je suis toujours traversée par cette idée théâtrale hein, quand j'écris. La parole hein, dans les interrogatoires notamment est totalement capturée, monopolisée en fait par les villageois qui vont parler, qui vont dégoiser autour de Marie. Et finalement, les gendarmes sont relégués à un second plan parce qu'ils ont bien du mal à se dépatouiller, en fait, de cette histoire et à percer la vérité. Finalement, c'est la rumeur qui fait bombance là-dedans, comme c'est souvent le cas. Et les laisser comme ça en marge, c'était une volonté. En même temps, c'était terrifiant parce que je me disais, quand j'écrivais, « Mon Dieu, ma pauvre Mathilde, ce ne sera jamais intelligible.
» Parce que, effectivement, ces gendarmes, donc, un, ils ont des... celui qui est nommé, il n'a qu'un prénom, je crois.
André.
Il s'appelle André, point barre, on ne sait pas.
Il est un peu désincarné, oui.
Oui, il est totalement désincarné. Le mot est faible, un peu. Il est totalement désincarné. On n'entend pas les questions qu'il pose dans les interrogatoires.
Non.
On n'entend rien, en fait. Il n'y a rien de lui. Il est assisté, alors non pas assisté, mais il y a une officier de police judiciaire, Arlette, qui est nommée pour conduire l'enquête, en fait. Hein. Elle n'est pas plus incarnée que ça. Elle s'appelle Arlette Poinbar. Elle a un costume assez strict. Elle est d'un mutisme terrible. Hein. Enfin, le brave André, il a bien du courage de faire les interrogatoires avec elle. Elle en est même pathétique, cette Arlette.
Oui, j'avais besoin d'un contrepoids. C'est un peu la fraîcheur de la ville aussi hein, qui s'invite dans ce milieu rural. C'est l'incapacité de percer la bulle aussi quand on vient d'ailleurs. C'est pas simple. Donc André, il est désincarné et en même temps, il est chaleureux. Il est père de famille lui aussi. Il est totalement ravagé par cette histoire. Enfin, moi, j'ai l'impression que quand je l'ai quitté... Je le dis d'ailleurs de manière assez subtile, peut-être pour être notifié, mais ça va le bouffer toute la vie, en fait. Hein. Ça va être très compliqué pour lui, parce qu'il est profondément humain.
Et puis, il est humain, quand je dis qu'il est désincarné, peut-être pas finalement, parce qu'il est identifié dans le village. André, il est connu dans le village.
Ça.
Tout le monde le connaît.
Il vient de là. Voilà, ouais. Il vient de là et en ça, il est respecté, parce que c'est un gars du pays. Voilà. Il est parti, puis il est revenu, donc les gens le connaissent. Et c'est peut-être ce qui permet aux auditions un peu fleuves comme ça de se répandre un chapitre sur deux.
Alors, est-ce qu'on peut parler d'audition ou plutôt de publication, de PV d'audition plutôt ?
Oui, je ne les ai pas retranscrits comme des PV tels quels.
C'est des paroles hein, qui se déploient complètement.
Complètement. Alors, certains parlent de monologue, ils ne parlent pas seuls, il y a des gens en face d'eux, mais moi j'avais cette idée de caméra un peu braquée au-dessus de mon épaule. Et j'étais, si vous voulez, celle qui devait recevoir cette parole. Et donc, je les fais parler et il y a en incise comme ça, ce qui pourrait s'apparenter un peu à des didascalies, c'est-à-dire que je me dis, ben... Moi, quand j'écris, je suis un peu en galère. Hein. Je vous le dis, je ne sais pas ce que je vais faire de tout ce qui m'arrive. Comme ça, ce tombereau d'idées. Et donc, je me dis, bah, toi, lecteur, si un jour tu me lis, voilà, mais je pensais qu'à mes proches à ce moment-là, bah, vous aussi, vous allez un peu galérer. Et donc, je distille comme ça un mouchoir sali, un genou qui tremblote, une main moite qu'on enlève de la table en formica. Et chacun doit se débrouiller avec ça.
Parce qu'en fait... Dans ce roman, il n'y a pas d'enquêteur.
Non.
Il y a...
Peut-être le lecteur.
Oui, il y a une narratrice ou un narrateur, mais qui est inidentifiable. Tout est impersonnel. Effectivement, vous mettez le lecteur face à lui-même, quoi.
Oui, de manière presque ironique. C'est une ironie mordante, c'est une ironie glaçante, vous l'avez dit aussi. Il y a du discours indirect libre parfois, les paroles sont rapportées de manière très très différente. Et c'est à nous en fait de faire l'œuvre, c'est ça que j'aime bien, c'est cette idée-là qu'il appartient au lecteur d'aimer, de détester aussi, c'est un sentiment légitime.
Justement, vous parlez d'ironie. Dans un polar, il y a toujours un enquêteur ou une enquêtrice, mais globalement, c'est souvent un enquêteur, souvent cynique, souvent qui a toujours un deuxième degré ou un troisième degré d'expression. Là, il n'y en a pas. Mais ça ne vous empêche pas d'en faire de l'ironie. Et je prends juste une phrase. La maison est calme, les parents sont au travail. On est dimanche pourtant. Mais Dieu, la tête dans le guidon, a oublié de programmer le repos des paysans. On pense très bien à un Sam Spade ou autre qui aurait pu penser ça ou dire ça finalement. C'est important ces petites incises. On les retrouve à plusieurs reprises dans le livre. C'était important pour vous de donner cette dynamique-là malgré tout pour que le roman soit aussi nous garde en éveil, finalement.
Oui, je crois que c'est important de sourire quand même, même face au mal, le plus pur, le plus abject. Et les gens qui me connaissent et qui ont lu Les Saules me disent qu'ils me retrouvent à travers, justement, ces petites billes-là. Voilà, oui. Donc ça, moi, je ne peux pas le dire, c'est compliqué, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit. On te retrouve à travers des expressions qui sont quand même assez... Oui, ironique. Oui.
Alors, je vais faire un parallèle. Vous allez me dire si j'ai raison ou pas. Peut-être que je ne devrais pas le faire, mais je vais quand même le faire.
Si, allez-y.
Voilà. merci, je suis autorisé.
Ah oui.
Moi, j'ai pensé à l'affaire Grégory.
Ah oui. Oui. Oui, je comprends, tout à fait.
Dans le climat, dans l'ambiance.
Oui.
J'ai pensé... on n'était pas dans les Vosges, mais pas loin quand même, finalement. Enfin, moi, j'ai beaucoup pensé. Sur cette troublante référence, je vous propose une respiration musicale. C'était Zentone, l'enfant des groupes Zenzile et Hightone, et un tout nouveau titre Messenger, annonciateur apparemment d'un prochain album. Vous êtes bien sur Radio G et vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Retour dans le studio avec Mathilde Bosseau, nous parlons de son premier roman, Les Saules, paru au Seuil. On a parlé là des petites incises un peu qui réveillent un peu, qui se disent il y a de la vie quelque part,
oui,
quoi.
Oui,
tout
oui.
N'est pas mortifère complètement. Vous dites c'est votre premier roman, j'ai commencé, je me suis mis devant mon clavier, puis finalement l'histoire m'a conduite plus que moi j'ai conduit l'histoire. Bon, vous êtes quand même presque experte, hein, parce que votre roman commence par une terrible fausse piste. Dans le prologue... La future victime, donc Marie, elle est vivante et elle se prépare à un rendez-vous amoureux.
Oui.
Et puis début du chapitre 1, vous décrivez une scène dans laquelle il y a du sang.
Mm-hmm.
Pour moi, je parle de fausse piste. C'est important d'essayer de perdre le lecteur en permanence.
J'ai pas voulu le perdre hein, quand je fais ça. Le prologue, je l'écris à la fin.
Mm-hmm.
Hein. Je crois que je suis vouée à écrire des prologues à la fin, parce que ça m'est arrivé encore à nouveau. Donc, je l'écris à la fin, et c'est très ironique de faire cohabiter ce prologue avec la tuerie, et effectivement, de faire dire à mon lecteur, non mais attendez, mais qu'est-ce qui se passe là ?
Oui.
C'est terrible. Et en fait, oh, ce n'est qu'un cochon, finalement. Et ça, ça m'amusait.
Alors, si on devait faire de la psychanalyse un peu de prisonnier, c'est un cochon, donc c'est le genre masculin, et on se rendra compte dans la résolution de cette histoire que les clés, la résolution peut... Et je ne veux pas dire qu'elle est inscrite dans cette scène-là, mais en tout cas la violence,
oui.
Ce sang qui recouvre, qui coule, et à nouveau pour certaines personnes qui ont pu vivre aller dans des fermes ou assister à cette terrible expérience de tuer le cochon, ils vont revivre quelque chose d'assez troublant, même si vous en dites très très peu. Mmh. On en dit presque rien. Alors vous l'avez dit, hein, l'histoire s'est un peu fabriquée. Il y avait l'envie de parler de Marguerite.
Oui.
D'éclairer ce personnage-là, de lui donner une vie. Alors presque une vie rétrospective. Hein. Quand vous parlez de vos souvenirs dans un bus.
Oui. Elle est émaillée effectivement de souvenirs. Marguerite, même si elle n'est pas moi, elle a une charge émotionnelle dingue, parce que c'est le prénom d'une grand-mère que j'ai jamais connue. J'ai pas pu l'appeler autrement que Marguerite. Alors ça, c'est très bizarre, ça aussi.
Oui.
ça interrogerait un psychologue, certainement. Mais voilà, je savais qu'il y avait une charge émotionnelle en la nommant Marguerite. C'est aussi le prénom d'une fleur. Ça renvoie à la campagne. Je t'aime un peu beaucoup passionnément.
Oui.
Pas du tout. C'était important parce que Marguerite, c'est l'enfance, en fait. Et qu'effectivement, la colonne vertébrale des Saules, c'est l'enfance. Hein. Mmh. C'est là que tout se tient. C'est aussi là que se joue beaucoup, pas tout, mais beaucoup de choses.
Mmh. Oui. Et pas en contrepoint, mais en miroir ou en face d'eux, il y a ce Victor.
Ah oui.
Alors, deux enfants qui sont en déséquilibre dans le monde. Victor, il n'est pas fragile, lui. C'est un costaud. Hein. Lui, l'aventure, il connaît. Lui, il n'a pas peur.
Hein. Non, il n'a pas peur de parler, lui. Hein. Lui, il n'y a même plus de ponctuation, en fait. Hein. Quand il parle, j'ai fait sauter les points, quoi. Oui. Clairement, il n'y en a plus besoin. Hein. Oui.
Mais vous l'avez mis. Mais il est là, ce
Victor.
Il est là.
J'avais...
Pourquoi le besoin de mettre cet enfant-là dans ce particularisme là qu'il a? Vous aviez envie de quoi?
D'abord, le hameau dans lequel je vivais, hein, il y avait plusieurs maisons et ces maisons étaient habitées par des gens très âgés. Hein. Il y avait trois couples, dont mes grands-parents d'ailleurs, mais de retraités, voilà, de personnes âgées. Et puis il y avait nous, mes parents, moi, ma sœur. Et j'avais un petit voisin qui venait en vacances de temps en temps chez ses grands-parents et qui venait me réveiller très très tôt. Ma mère râlait parce qu'il lançait comme ça des cailloux à ma fenêtre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu. Et il fallait s'habiller très très vite. Il fallait planter ses jambes dans un jogging. On mettait les bottes et on descendait près de la rivière puisque j'avais la chance d'avoir une rivière à côté de chez moi. Et donc, on allait faire les 400 coups là-bas. Et il est né... avec cette envie d'apporter quand même une touche de légèreté et puis d'apporter une soupape en fait à Marguerite, parce que sinon c'est trop compliqué, c'est trop difficile pour elle. Moi je l'aime en fait, Marguerite. Mes personnages ils me traversent en fait, et donc ces rambassonnades là, tous les deux main dans la main à balancer une chambre à air, franchement je l'ai vécu ça, la chambre à air balancée sur une rivière en étant persuadée qu'on va faire du rafting, vraiment c'était chevillé au cœur, quoi. Donc voilà, il y a encore une fois, je parle, voilà, de quelque chose de personnel. Et en même temps, Victor, il est aussi totalement fictif. Justement, lui, c'est le pendant inverse de Marguerite. Il est amoureux d'elle alors que Marguerite sait pas trop quoi faire de l'amour et c'est pas vraiment, vraiment ce que c'est, parce que c'est compliqué pour elle. On lui a jamais dit je t'aime. On lui dit tu pues à Marguerite. Et donc, Victor, c'est la légèreté, c'est l'éclaircie dans le ciel breton.
Parce que la famille de Marguerite, moi j'ai pensé, alors c'est des images, des clichés, hein, je suis désolée, mais on n'est pas loin des Thénardier hein, quand même. Hein.
Oui, peut-être. Après, il ne la maltraite pas. Cosette, elle est vraiment maltraitée. Oui. D'ailleurs, les Thénardier, ce ne sont pas ses parents. Elle est confiée par Fantine aux Thénardier. Oui. Et les Thénardier abusent en fait de Fantine qui va ruiner sa vie pour essayer de sauver sa fille.
Non, quand je dis les Thénardier... bien sûr, ils ne sont pas. Il y a une posture, je crois, hein, qui est celle de l'univers rural,
oui.
Où faut pas trop s'apitoyer, quoi. Faut avancer, quoi.
Non, on est ça m'intéressait beaucoup en fait, parce que c'est quelque chose qui m'interroge. C'est traverser les non-dits et comment on traverse les non-dits. Marguerite, en fait, quand je l'écrivais, je savais qu'elle était aimée. Voilà. Alors, son père l'aime mal, sans doute, mais j'avais l'intime conviction. C'est même pas une intime conviction, c'est que je savais que sa mère l'aimait, mais je ne le racontais pas. Et j'ai donc, à un moment donné, je me suis dit, Mathilde, mais comment les gens vont savoir qu'elle est aimée, cette Marguerite, en fait. Et donc, c'est là qu'est venue la scène de la douche, qui est une de mes scènes
qui est
pour moi, quand je la relis, j'ai beaucoup d'émotions encore.
Oui, qui est une scène importante, puisque c'est, on peut imaginer les Thénardier au début, mais on sent qu'il y a autre chose quand même. Il y a quelque chose, de toute façon, que cet amour, il ne se dit pas.
Non.
Parce que ça ne se dit pas.
Parce que
c'est
ça
comme
ne
ça.
Se dit pas.
Voilà. Et parce qu'elle raconte, elle fait pipi au lit. Enfin bon, il y a des scènes d'enfance classiques, traditionnelles. Et dans cet univers-là, il y a des choses qui ne se disent pas parce que c'est comme ça. Parce qu'il faut être actif, parce que le matin, il faut se lever tôt, parce qu'il n'y a pas de dimanche. Donc voilà, ça c'est important. Ce roman, vous avez mis combien de temps à l'écrire?
C'est compliqué, je dirais, allez, peut-être 9 mois. Je m'en sors bien. Hein. Non, mais franchement, je ne sais pas si c'est un temps long, Il y en a qui mettent des années à écrire des livres, d'autres qui font pulser l'écriture. Je crois que j'écris assez vite. Par contre, j'ai une relecture dantesque. Mmh. C'est compliqué d'être satisfaite. Mais je l'ai écrit pendant les moments des siestes de mon ouais. fils. Et donc, c'était très morcelé, c'était très parcellaire. C'était quand j'avais le temps. Et puis, moi, je n'avais pas un livre à écrire, en fait. Hein, donc, voilà, c'est quelque chose qui s'est distillé au fil des jours, des semaines et puis des mois.
Premier lecteur, c'était qui ?
Mon premier lecteur, c'était mon compagnon, Mathieu.
Et on écrit, on met le mot fin. Alors peut-être qu'on n'est pas satisfait, qu'on aimerait réécrire plein de fois, mais ce n'est pas grave. On a mis le mot fin.
Oui.
Et on vous dit, il faut peut-être penser à aller plus loin que ça, donc peut-être la publication. Comment on décide d'envoyer son manuscrit à des maisons d'édition ?
Alors moi, il y a une phrase comme ça qui me reste, c'est que justement mon compagnon m'a dit « si toi tu le fais pas, si tu l'envoies pas, je l'envoie ». Alors là, le féminisme en moi a pris le dessus et j'ai dit « alors là, pas question, je le fais ». C'est un gros travail d'envoyer un manuscrit à une maison d'édition, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, mais je l'ai fait en me disant que je jetais une bouteille à la mer, mais franchement, j'avais aucun espoir en fait que ça devienne un livre, c'est la vérité hein. D'ailleurs, quand une éditrice, c'est Caroline Lépée, hein, m'a envoyé un mail, j'ai cru que c'était un spam. Je l'ai relu plusieurs fois. Je me souviens très bien, j'étais en train d'éplucher des carottes. Non, mais vraiment. On va retourner à la trivialité avec moi hein, tout le temps. Et je l'ai lu, hop, j'ai fermé, j'ai terminé ce que j'étais à faire à la cuisine et j'y suis retournée, quoi. Mais vraiment, j'étais totalement hébétée. Et ce mail a été une déflagration. Ça a été, il y a quelqu'un qui considère que ça vaut quelque chose, mais... Et puis après, tout s'est enchaîné, très vite.
Cependant, les auteurs ou autrices comme vous, qui sont en quête d'éditeurs, parce qu'à un moment donné, ben oui, il faut passer à ce stade-là, les maisons d'édition, il y en a un million. Ouais. Les mauvaises maisons d'édition, il y en a un million aussi. Et vous, vous êtes édité... dans une grande maison d'édition, Le Seuil, vous aviez sélectionné les maisons d'édition chez qui vous vouliez être publié ?
J'étais très embêtée au début parce que je ne savais pas à qui l'envoyer, ce livre, parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Est-ce que c'était un roman policier ? Est-ce que c'était de la littérature blanche ? Quand j'ai écrit, je ne me disais pas du tout que j'allais correspondre à une ligne éditoriale, en fait. Donc, je me suis retrouvée avec ces 186 pages sur mon ordinateur en me disant « Mais chez qui ? Comment ? Et pourquoi ?» Donc, j'ai sélectionné des maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui n'acceptent que le papier. D'autres maisons d'édition qui acceptent des fichiers en PDF, voilà, c'est plus simple, c'est plus économique oui, aussi. Oui. Et puis j'ai envoyé, voilà, comme ça, pouf, pouf, pouf.
Pouf, pouf, pouf. Et Le Seuil répond, et c'est publié. Et oui. Moi, je le dis, j'ai lu ce roman avec vraiment un plaisir de lecteur. C'est-à-dire qu'on est dans un roman noir, donc il y a du suspense, en tout cas, il y a des questionnements. Mais il y a aussi une écriture. Et moi, c'est un plaisir de lecteur que j'ai eu en lisant ce livre.
Merci.
C'est-à-dire que c'est une écriture qui se tient. C'est extrêmement cohérent. C'est extrêmement dense, d'ailleurs. Pour moi, ce livre, il fait 196 pages, mais il est extrêmement dense. Et voilà, je le dis, mm-hmm. C'est un plaisir de lecteur que j'ai eu. Alors, ce plaisir de lecteur, parce que quand il y a plaisir de lecteur, il y a plaisir de lecture. Est-ce que vous vous souvenez de votre première lecture ? Première lecture. Donc, ça remonte à loin.
Oh là là.
Oui. Comme ça, spontanément.
Comme ça, spontanément, c'est les Picsou. C'était ce que m'achetaient ma mère, enfin mes parents, l'été. J'avais le droit à un super Picsou géant. Donc, en fait, je les usais jusqu'à la corde. Vraiment. Vraiment, c'est mon premier souvenir. Hein. C'est Picsou.
Ben voilà. Dans le genre polar, thriller, etc., vous lisez ou vous avez des lectures dans ce genre-là
Alors, je voudrais surtout pas me comparer, hein, vraiment,
pas,
hein, on est d'accord, je prends une précaution oratoire.
Juste pour savoir ce que vous lisez dans ce genre.
Là, dernièrement, c'est Ron Rush.
Oui, mais là, voilà. c'est tellement évident, Ron Rush.
C'est les deux derniers livres, c'est mon avant-dernier, c'est celui que je lis là, donc c'est lui qui me vient à l'esprit.
Est-ce que quand vous étiez adolescente, parce que quand on est ado, on a besoin de lire. On lit plus de jeunes publics et je connais beaucoup de gens qui pillent la bibliothèque de leurs parents parce que voilà, alors certains ils tombent sur Agatha Christie, sur ce genre de choses. Vous, ça a été ça aussi ?
Non, pas du tout.
Non ?
Eh non, c'est bizarre, mais moi, adolescente, je lisais pas beaucoup, hein, pour ne pas dire très peu. Je lisais ce qu'on me donnait à lire à l'école. J'étais la bonne élève, en fait, qui lisait jusqu'à la dernière page Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Hein. Mais mais c'est la vérité. Je lisais pas beaucoup. Ma mère lisait, moi, très peu. J'ai fait un bac scientifique, moi, option physique-chimie. Donc, j'étais corps et âme plongée dans les sciences. C'était pas simple pour moi. Je m'en sortais, mais il fallait que je travaille beaucoup. Je mettais mon réveil le matin, le week-end, pour travailler. Voilà, comme mes parents. Et je suis venue à la littérature vraiment, je dirais, à la fin de la classe de terminale. Je savais pas du tout ce que je voulais faire. Je savais que les sciences, c'était pas quelque chose qui me taquinait vraiment. Et donc, j'ai découvert qu'il existait des classes préparatoires littéraires. Je savais pas que ça existait. C'est en fouillant comme ça dans un coin du CDI que je me suis dit, tiens, c'est pas mal ça.
CDI de quel collège ?
Alors, c'était le collège Henri Avril à Lamballe. Et j'ai lu qu'on faisait du français, de la philo, de l'histoire. Et je me suis dit, je vais essayer de faire ça, moi. Voilà.
Toujours pour préparer cette émission, moi je vous ai demandé de venir, alors je vous avais donné une consigne que vous n'avez pas respectée, c'était de venir avec 3 livres. Et donc, me voilà bien embarrassé puisqu'il y a plus de 3 livres, donc on va en prendre 3.
Ouais.
Et alors, on va prendre, vous êtes venu avec un Faulkner.
Oui, oui.
Vous êtes venu avec quoi de Faulkner ?
Alors, je suis venu avec Le Bruit et la Fureur, je l'ai devant moi, là, il est tout abîmé par l'humidité de ma maison.
Oui, vous avez dit... En le prenant tout à l'heure, il pue.
Oui, oui, mais c'est sans bon en même temps. C'est une puanteur agréable. Oui, Faulkner, parce que fallait que je le glisse dans le sac. Parce que voilà, tout n'a pas été dit. Tout ne sera du coup jamais dit autour de Faulkner. C'est ça qui est intéressant, peut-être. Beaucoup de choses ont été dites. Tout reste encore à dire. Et c'est un écrivain, on en parlait tout à l'heure, ça peut paralyser d'écrire quand on a lu des monstres comme ceux-là. Ça m'a longtemps habité, en fait. À chaque fois que je refermais un livre, je me disais, ok, bon, c'est pas la peine, en fait. Tout est là, tout est dit. Et petit à petit, c'est en gravissant des Everest tels que Le Bruit et la Fureur que, paradoxalement, je me suis autorisée aussi à écrire. Parce que justement, les chefs-d'œuvre sont là, on peut s'appuyer sur eux et on peut trouver sa propre voix. Voilà, une petite voix, toute petite voix, comme celle de Marguerite, qu'on entend peu.
Deuxième livre, c'est moi qui le tire aussi. Donc ça va être Les Planches Courbes.
Ah oui.
Alors
Parce que je me disais que je ne pouvais pas ne pas glisser un recueil de poésie, en fait, dans mon sac. Parce que... Quand on me demande de choisir, c'est impossible. C'est comme si j'avais plein d'enfants. Donc, je ne les aime pas. Je les aime pas tous pareil, les livres que je lis. Mais je me disais que voilà, si je devais partir sur une île déserte, vivre toute seule, j'aurais bien du mal, parce que je suis quelqu'un d'assez bavard. Mais j'emporterais un recueil de poésie. Voilà. Et voilà, c'est, je ne sais pas, là, je tombe sur un vers que j'ai souligné, page 45. « Aube ». Consent à nous aujourd'hui encore. Voilà. Bon, là, on n'a plus qu'à s'asseoir et à...
Voilà. Le troisième, je vous laisse le choisir.
Alors, le troisième, c'est celui que je viens de glisser ce matin dans mon sac, alors que j'avais préparé mon petit tas hier soir, comme une bonne élève qui prépare son sac la veille. C'est L'Amant de Marguerite Duras. Parce que c'est... J'ai l'impression que c'est le premier livre... que j'ai vraiment aimé Et je l'ai découverte, Marguerite Duras, à travers le cinéma. Je suis venue, moi, peut-être à la littérature par l'intermédiaire du cinéma. Maman faisait un grand sacrifice parce qu'elle nous emmenait, ma sœur et moi, au cinéma. C'était quand même 40-45 minutes de route. Hein. Et on allait au cinéma et elle nous emmenait voir ce qu'on voulait voir. Parfois, je choisissais un autre film. On faisait juste en sorte que les séances coïncident un peu. Et on peut venir à la littérature par bien des manières, par bien des chemins. Et peut-être que le mien, ça a été le cinéma.
Alors, en faisant ce petit exercice-là, ce que moi, je voulais aussi faire entendre, je n'en connaissais bien évidemment pas le résultat, mais oui. Ce que je voulais faire entendre, c'est que la littérature ne procède pas que forcément d'une monomanie de lecture, qu'un livre, il peut surgir de plein de choses, de Picsou Magazine,
oui.
De Marguerite Duras ou de Faulkner. Et je crois que ça, c'était pour moi, c'est important de montrer que la construction qu'on peut se faire soi-même, elle permet aussi peut-être d'arriver à des livres comme Les Saules. Ça fait quoi de voir son livre sur les tables des libraires ?
C'est une immense joie, doublée d'une... Enfin, matinée d'une petite terreur, parce que maintenant, cette histoire, elle appartient aux autres. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire pour moi.
Ben, je vous remercie, Mathilde
Merci.
Bosseau, d'être venue dans le studio de Radio G. Je rappelle le titre de votre livre, Les Saules. C'est paru aux éditions du Seuil. Je vous souhaite une très, très bonne journée. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup.
على جنب الطريق اشتد الظلام ماشي من دون رفيق يحكي الكلام كلام اسمه الحرية يحقق الأحلام كلام وإنسانية وبدون استفهام عندها قلب يشتاك من زمان تايه في كل درب مختلف الأحزان والناس عندها قلب اشتاك من زمان تايه في كل درب مختلف الأحزان والناس عندها قلب اشتاك من زمان تايه في كل درب مختلف الأحزان We'll be right back.
écouter, ça s'appelle Tazamo, c'est de Alright Mela, et c'est comme ils disent du Gnawa Med Electro. Une étrange mixture musicale dont le résultat est pour le moins réjouissant. Vous êtes toujours branché sur Radio G, fréquence 101.5, et vous écoutez toujours Entre les Pages. Je laisse maintenant la place à Valérie Wrobleski. C'est elle qui intervient dans la chronique lue et approuvée. Bienvenue dans cette nouvelle chronique lue et approuvée. J'ai une invitée aujourd'hui. Cette invitée, je l'ai rencontrée un dimanche du mois de septembre. On était dans la Doutre et les cloches sonnaient et battaient le rappel des fidèles pour la messe. En fait, nous, on n'était pas, on ne s'est pas retrouvés pour la messe, en tout cas pas pour cette messe-là. On s'est retrouvés dans une librairie, la librairie L'Étincelle, au cœur de la Doutre. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez comment ?
Alors d'abord, merci de rappeler ce beau souvenir et cette belle rencontre. Alors je m'appelle Valérie Wrobleski-Moulin, je suis réalisatrice de documentaires, je suis également intervenante spécialisée en école d'audiovisuel et parfois je mène aussi des projets artistiques qui mélangent vidéo, son, photo.
Aujourd'hui c'est la chronique lui approuvée et c'est une ou un invité qui vient parler d'un livre qui lui tient à cœur. Alors, quel livre vous allez nous présenter aujourd'hui ?
J'ai choisi de vous parler d'un recueil de textes qui s'appelle « Les mains bleues ».
Les mains bleues ? Ben, ça parle de quoi ?
Je suis originaire du Nord-Pas-de-Calais. Et fin des années 90, début 2000, j'ai entendu parler d'un projet de pièce de théâtre qui s'appelle « 501 Blues ». Qui est en fait un projet qui a été initié par une association dans l'ancien bassin minier qui s'appelle Culture Commune. Et ce projet a la particularité d'avoir donné la possibilité à des anciennes ouvrières de l'usine Lévis de la Bassée, à côté de Lens, de pouvoir écrire leur histoire et ensuite de monter une pièce de théâtre. Je trouve que c'est déjà un très très bon projet qui me tient à cœur parce que, issu du monde ouvrier, je trouve que de donner cette possibilité à des personnes qui ne sont pas dans la création, pas dans l'écriture, c'est vraiment quelque chose de très beau pour moi. Et puis, c'est une manière aussi de donner une possibilité de résilience parce que 541 ouvrières ont été licenciées du jour au lendemain et elles ont pu, 2 ans après, je crois, pouvoir retrouver un petit peu d'humanité et de réconfort et de force via ce projet d'écriture.
Et cette pièce, elles l'ont jouée ?
25 d'entre elles, je crois.
Et elles l'ont jouée souvent, longtemps. Ce livre, donc, c'est une histoire ouvrière. Pourquoi parler de culture ouvrière aujourd'hui ? Pourquoi ce livre vous tient vraiment à cœur ?
Alors déjà, dans mes propres projets, j'ai à cœur de se faire rencontrer les gens issus de milieux socioculturels différents parce que je crois beaucoup en la rencontre, à l'échange entre êtres humains pour aller vers le mieux tous ensemble, échanger, se donner de l'amour, du respect, comprendre l'autre aussi. Ça déjà, personnellement, ça me touche énormément. Et il me tient à cœur également parce que vous n'êtes pas sans savoir que la région Pays de la Loire a fait des coupes budgétaires au niveau de la culture, des sports et des solidarités. Et pour moi, ce genre de projet, c'est la culture. La rencontre vers l'autre. La culture, ce n'est pas simplement que du divertissement, c'est aussi de l'humanité. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui en Pays de Loire, pour moi, est très, très grave. Et ce genre de projet peut être initié partout, dans n'importe quelle région. Et voilà, de faire aujourd'hui des coupes budgétaires dans la culture, c'est pour moi ne pas donner la possibilité à des artistes, à une population qui est des fois en détresse, de pouvoir mener ce genre de projet. Et je dis encore une fois, ce genre de projet qui est pour moi un acte de résilience et de solidarité.
Oui, mais là je ne comprends pas le lien parce que ce projet est porté par une structure qui s'appelle Culture Commune, une structure vraiment passionnante. Ça veut dire que Culture Commune était financée par la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque ?
En partie, en fait. Il y a plusieurs financeurs, oui. Les collectivités, la DRAC, mais également, effectivement, la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, aujourd'hui Hauts-de-France.
finalement, ça veut dire que ça sert à quelque chose, les fonds publics, quoi. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Hein.
Mais
oui, ça sert à développer la culture, les projets. J'espère que moi, l'émission a une audience telle qu'elle résonnera dans les couleurs de l'hôtel de région à Nantes. Est-ce qu'on peut rappeler les références?
Ça s'appelle Les Mains Bleues et Christophe Martin. Parce que Les Mains Bleues, en fait, les ouvrières ont monté un collectif, hein, une association. Alors, c'est publié chez Sansonnet.
Très belle maison d'édition, hélas maintenant disparue. Elle avait une ligne éditoriale exigeante. Hein. Elle s'intéressait à la citoyenneté, aux droits humains, à l'écologie aussi. Leur couverture était facilement identifiable.
Ça date de 2001 et je vous le conseille vraiment vivement.
Merci Valérie Wrobleski de vous être déplacée jusque dans le studio de Radio G. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.
À bientôt.
Merci Valérie pour ce conseil que je vais m'empresser de suivre, mais il est l'heure de rendre les clés du studio. Quelques informations sur le monde des livres en Anjou. Le 27 février, bouillon au quai pour les 110 ans de la naissance de Marguerite Duras. C'est Simona Krypa qui interviendra. Le 7 mars prochain à 19h à la librairie Le Renard qui lit à Chalonne, rencontre dédicace avec Pat Perna, l'un des auteurs de l'album Grégory, publié aux Arènes. Et vous n'oublierez pas la prochaine édition du Printemps des Poètes. Ce sera du 7 au 14 mars. La ville d'Angers accueille Ariane Dreyfus et Falmarès. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la ville d'Angers. Vous pouvez aussi vous faire une idée de la poésie de Falmarès sur le site de Radio G dans l'onglet « Podcast » à la page « Printemps des Poètes 2025 ». Le thème national du Printemps des Poètes 2025, c'est la poésie volcanique. Vous pouvez télécharger sur le site du Printemps des Poètes une anthologie dite évolutive au format PDF. Au cours de l'émission, vous avez entendu Zentone qui a interprété Messenger et Alright Mela qui a chanté Tazamo. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à cette émission sur la page de Entre les Pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera le mercredi 12 mars à 17h. Je recevrai Claire Baglin, autrice de En Salle, aux éditions de Minuit, et Clément Camard-Mercier, auteur de Le roman de Jeanne et Nathan chez Actes Sud. Tous les deux sont en résidence à la maison Julien Gracq. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis bien sûr votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant.
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.